Donc, Jacques Cruchon, je suis actuellement consultant en urbanisme et patrimoine et j'ai fait une grande partie de ma carrière à Bayonne où j'étais directeur d'urbanisme et je me suis occupé beaucoup de secteurs protégés, de PLU également et de PLU à tentative de protection.
Alors, est-ce que le PLU patrimonial existe ? Est-ce que le PLU patrimonial existe ?
Et formellement, plus ou moins. C'est-à-dire que le code prévoit qu'effectivement, on puisse mettre en place un travail de repérage, d'inventaire et de protection. Donc formellement, oui. Après, moi, quand j'en parle ou quand je fais des interventions, je replacerai ça dans un contexte plus large. Pour moi, la protection des espaces protégés, il y a trois niveaux de protection et chaque niveau, je dirais, est un niveau inférieur, un cran inférieur. Donc, le niveau supérieur sont les secteurs sauvegardés, demain les plans de sauvegarde, uniquement le plan de sauvegarde. Le deuxième, les AVAP, les aires de valorisation et du patrimoine. Et le troisième, le PLU. Alors, le premier, actuellement, c'est compétence État et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fouillé. On dit c'est la Rolls, hein, le classique de ça. La VAP, c'est un niveau intermédiaire sur lequel déjà on peut avoir des choses à dire. Hein. C'est-à-dire que ZPP, UP, AVAP, moi je me souviens en 1995, pour ceux qui étaient nés, les crédits moyens affectés aux ZPP, UP étaient de 50 000 francs. Donc en fait, on raisonne à l'envers. C'est-à-dire qu'on a un budget, en fonction du budget, je regarde ce que je peux faire. Je connais des AVAP, des ZPP, UP, pardon, qui sont arrêtés à 100 000 francs, point, je ne travaille plus. Quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que je n'ai pas repéré comme protection, à protéger plus exactement, je suis dans un discours de protection, dans un outil de protection, les servitudes de la VAP. Si je n'ai pas repéré, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Donc c'est une question, les moyens affectés. Alors encore plus au PLU. Donc au PLU, effectivement, oui, formellement, juridiquement, oui, avec des réserves, hein, mais formellement, oui. Le PLU, il est prévu qu'il puisse mettre en place des mesures de protection. Après, ça veut dire quoi ? Quel niveau d'inventaire ? Quel niveau de connaissance ? Exhaustif, pas exhaustif ? Quels moyens on met ? Avec qui ? Pour faire ce travail ? C'est une vraie question. L'autre question, c'est est-ce qu'on a vraiment tous les moyens juridiques pour que cet outil-là soit efficace dans la restauration des immeubles, des espaces protégés, etc. Et avant-dernier point, on va avoir le temps de compatibilité, de réflexion sur les études patrimoniales et l'élu qui a 6 ans devant lui pour travailler, ce qui est normal à un PLU, le faire évoluer parce que c'est quand même la politique urbaine du territoire. C'est pas du tout garanti non plus que ce temps-là soit là. Et enfin, le dernier point, c'est que le PLU, il est de maîtrise locale, donc EPCI aujourd'hui, collectivité, et qu'il appartient à ces élus-là de décider de leur politique. Ils le font de manière parfaitement libre, sous réserve qu'ils respectent les règles d'élaboration du document. S'ils respectent les règles d'élaboration du document, les procédures, etc., ils sont parfaitement libres de choisir radicalement des options différentes. Le juge va intervenir de manière formelle, et puis le préfet, je préfère pas en parler.
Et alors, on parlait des niveaux de protection, donc avec 3 niveaux de protection. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un intérêt à utiliser le PLU comme un outil complémentaire des autres mesures de protection ? Outil complémentaire d'un secteur sauvegardé ou d'une AVAP ?
Oui. Enfin, il peut y avoir aussi un autre aspect positif, maintenant j'ai du mal, hein. C'est que c'est aussi un premier pas. C'est aussi une première prise de conscience de l'existence de choses intéressantes sur son territoire. Hein. Ça peut être aussi effectivement un outil complémentaire. Je crois que de ce point de vue-là, la réforme qui est en cours le confirme. C'est-à-dire qu'en dehors des sites patrimoniaux remarquables, a priori, c'est à moins que ça change, on pourra mettre en place un autre outil qui est le PLU, puisqu'on ne pourra pas, a priori, mettre en place ni un plan de sauvegarde, ni les fameux PVAP, les plans de valorisation de l'achat du patrimoine. Donc oui, c'est un outil complémentaire, mais en même temps, il faut être conscient de sa limite. y compris de ses effets. C'est-à-dire, j'ai parlé des effets juridiques qui étaient faibles sur les travaux, puisqu'en fait, au niveau du code, il n'existe pas de capacité de prescrire des travaux particuliers, etc. Mais c'est aussi une limite, me semble-t-il, opérationnelle. C'est-à-dire que, autant au niveau des deux autres outils, on a des moyens opérationnels derrière, en particulier sur les politiques du logement, autant sur le PLU, il n'y a rien d'associé. Il faut travailler différemment avec d'autres outils, etc. Quoi. Donc, on ne peut pas balayer, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est vraiment le Canada Dry, quoi, hein, donc des protections.
Et pour les communes qui n'ont pas d'outils particuliers de protection du patrimoine et qui n'en ont pas forcément les moyens ni l'ingénierie, est-ce que le PLU patrimonial est une bonne solution ?
La question répond elle-même, c'est-à-dire que si je n'ai pas les moyens de travailler à une politique de protection, ça veut dire que je ne vais pas me donner les moyens de la connaissance. Fondamentalement, c'est ça. Dire que on ne protège que ce, enfin, on aime que ce qu'on connaît, je dirais quoi. Donc, si on veut avoir une politique de protection patrimoniale, ça veut dire qu'il faut savoir, il faut connaître, il faut hiérarchiser. Je ne présente même pas d'un point de vue juridique, hein, qui voudrait l'inventaire, l'objectif, le règlement, le document graphique, etc. Et l'inventaire immeuble par immeuble qui précise les servitudes, etc., ou les potentielles servitudes. Ce n'est même pas ça, c'est, je veux dire, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour connaître avec qui. Donc, fondamentalement, à mon avis, c'est ça. Et ça va se poser, mais encore plus aigu dans l'intercommunalité. Hein. Ça va encore être plus important, la question.
Alors, il a été question dans le projet de loi CAP, à un moment donné, de faire du PLU le principal ou l'un des principaux outils de gestion des patrimoines. C'était une bonne ou une mauvaise idée ?
Ah, pour nous, c'était de toute façon une très mauvaise idée. Hein, une très mauvaise idée pour les raisons que j'ai évoquées. Hein, c'est-à-dire que, juridiquement, on voulait raisonner en droit constant. Donc, c'était la commande, manifestement. En tout cas, c'était pas négociable. C'était peut-être des contradictions entre différents ministères, etc. Mais cela étant, ce n'était pas une question à l'ordre du jour. Donc on raisonnait en droit constant. Et de ce fait, en raisonnant en droit constant, on donnait au PLU une place équivalente de remplacement, en tout cas, de la VAP, voire même une place équivalente à celle du plan de sauvegarde, puisqu'on laissait l'élu choisir la procédure. Et l'élu avait le choix entre mettre beaucoup d'argent dans une étude longue qui embêtait beaucoup de monde, ou mettre pas beaucoup d'argent dans une étude courte qui embêterait personne. Et en manière générale, quand on est un élu fragile, on peut imaginer qu'on choisit plutôt la seconde solution. Donc l'effet cliquet aussi n'était pas en place, hein, c'est-à-dire que le contrôle du juge n'était qu'un contrôle formel. Et donc, à nouveau tout à fait normalement, un maire ou un président de PCI, enfin en tout cas la structure compétente, peut parfaitement changer la règle du jeu, si elle le justifie, si elle explique pourquoi, bien sûr, hein, elle peut changer la règle du jeu, et donc il n'y avait pas du tout de contrôle de l'État par rapport à ça, ni de qui que ce soit, enfin je dirais pas un contrôle formel à nouveau, quoi. Donc pour nous, c'était une catastrophe. Incontestablement, c'était une catastrophe. Je pense qu'à un certain moment, le ministère de la Culture en était conscient, puisqu'il y a eu une tentative de réécriture du code d'urbanisme, mais qui n'ont pas été très loin. Et heureusement que le Sénat a remis la discussion sur le champ du code du patrimoine et non pas du code d'urbanisme. Donc, très clairement, c'est une très mauvaise idée. C'est un affaiblissement évident. Et un affaiblissement encore plus aigu. Je crois qu'on n'a pas compris, enfin, ils n'ont pas compris, qu'il y a deux types de collectivités. Des collectivités à une certaine puissance politique, technique et financière, et des collectivités qui ont une puissance technique, politique et financière différente. L'autre jour, nous étions à Vézelay. Vézelay, secteur sauvegardé, 460 habitants, dans une interco importante, 900 000 visiteurs. Les communes environnantes sont jalouses du succès apparent de Vézelay, qui en fait n'a pas autant de succès financier que ça avec ses visites. Et le maire, dans l'interco plus exactement, il n'y a qu'un représentant de Vézelay, le maire. Donc si l'ensemble des communes ne sont pas aussi branchés que lui, je dirais, ou plus sensibles que lui à la question de la protection, quel poids va peser le plan de sauvegarde de Vézelay en intercommunalité? Et les petites communes sont très inquiètes de ça. Hein, c'est-à-dire que cette difficulté a existé, hein, et a, l'Interco s'est jamais intéressé jusqu'à présent à la question patrimoniale. Donc la question, effectivement, c'est de savoir si, du jour au lendemain, dans 10 ans, je suis confiant, j'ai confiance dans l'homme, mais du jour au lendemain, il faudrait que l'Interco soit capable de prendre en compte ce que fait une commune depuis des décennies. Ça me semble mission impossible. Quoi.
Alors, pour aller sur le troisième item de nos questions, est-ce qu'on peut préciser un peu juridiquement, puisqu'on a dit que le PLU pouvait être un outil adapté dans la hiérarchie?
Non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit peut être adapté, j'ai dû passer une place inférieure.
Alors, est-ce qu'il peut être adapté? Déjà, on peut poser la question. Est-ce qu'il peut être adapté à la protection du patrimoine, puisqu'on l'a classé dans les trois échelles?
Alors, il y a deux réponses. Hein. Il y a une réponse juridique, formelle, et je ne vois pas ce qui peut faire fondamentalement obstacle à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit d'écrire la loi et les décrets d'application. Donc, il suffisait, entre guillemets, d'écrire un nouvel article R121, je ne sais plus combien, et donner un contenu au PLU. Il suffisait d'écrire les décrets différemment pour qu'effectivement, dans les autorisations de travaux, on puisse prescrire un niveau de matériaux, mais également un niveau de précision, comme il est prévu sur le plan de sauvegarde ou sur la VAP. Donc formellement, oui, bien sûr, mais c'est du juridicisme, quoi. C'est-à-dire, c'est oublier à nouveau que... Il y a deux obstacles. Alors, il y avait un premier obstacle qui, lui, par contre, me semblait, et nous a semblé collectivement, juridiquement insurmontable, c'est que d'imposer le contrôle de l'État sur un document d'urbanisme de compétences locales, constitutionnellement, ça pose question. C'est-à-dire que la libre administration de la commune, est-ce qu'elle était respectée? La centralisation, est-ce qu'elle était respectée? Une vraie question, et la réponse nous semblait plutôt être négative. Hein. Donc, à un moment donné, de se dire on veut un garde-fou et le fait cliquer, c'est le contrôle du c'est l'association de l'État et l'accord de l'État, comme on l'a dans la VAP et comme on l'a dans le plan de sauvegarde, ça a priori fragile, voire même impossible. La seconde, à nouveau, c'est que sur un territoire, vous êtes à Bordeaux aujourd'hui. Je veux dire que, regarde, vous allez voir le temps, depuis combien de temps l'équipe de Bordeaux travaille sur l'inventaire du PLU patrimonial. Est-ce que ce temps, à nouveau, d'inventaire, d'étude, est compatible avec celui d'un outil d'urbanisme qui a besoin d'évoluer, de développer des déplacements, de l'économie, du loisir, du logement, etc. La réponse à l'évidence est non. Je crois que, consubstantiellement, il y a un problème, quoi. Hein, quelque part. C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est pas une question de crainte ou de jacobinisme. Quoi, hein. Je pense qu'il y a un problème effectivement très consubstantiel aux procédures.
Et pour quel type de patrimoine on pourrait mettre en place un PLU si on estime qu'on hiérarchise les outils et qu'il y a le secteur sauvegardé qui est la Rolls pour un patrimoine très foisonnant? Est-ce que finalement le PLU ne serait pas adapté pour des communes qui ont un patrimoine d'intérêt local, ou voilà, comment est-ce qu'on fait le distinguo? Quel type de patrimoine?
Il se fait, moi j'ai l'impression qu'il se fait par défaut. Aujourd'hui, il va se faire encore plus par défaut. C'est-à-dire que aujourd'hui, le plan de sauvegarde, c'est-à-dire sauvegardé, entre guillemets, l'État le décide. Entre guillemets, parce que l'accord de la collectivité, bien évidemment, est nécessaire. Et tout à fait important, mais je veux dire, s'il y a une volonté de l'État, le Conseil d'État peut décider qu'il y aura un plan de sauvegarde sur un territoire contre l'avis de la commune. Le niveau de la ZPPAUP, c'est une décision partagée entre l'État et la collectivité, et elle peut se faire dans un consensus. Aujourd'hui, et puis il y a le PLU à côté. Mais la ZPPAUP, Moi maire, moi président de PCI, je pense qu'il faut en mettre une à tel endroit, telle ou telle commune ou telle ou telle communalité. Je fais la démarche. À la limite, je n'ai pas de subvention de l'État, c'est pas grave, j'y vais. Demain, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Demain, si j'ai bien compris le futur projet de la loi CAP, il y aura les sites patrimoniaux remarquables, appelons-les comme ça pour l'instant, créés par l'État, à l'intérieur duquel je ferai un plan de sauvegarde ou un plan de valorisation du patrimoine, et en dehors, à ma connaissance, hein, ça fera de ma part, ce n'est pas prévu. Donc, je n'ai pas mis les moyens à nouveau pour créer un périmètre à l'intérieur duquel je peux valoriser du patrimoine, l'identifier, le protéger, je n'ai plus que la ressource du PLU. Alors ça ne veut pas dire que le patrimoine est plus d'intérêt local, ça veut dire que on va être là aussi sur des modes opératoires, en partie contraints budgétairement, c'est une évidence. Je vois pas très bien, quoi. Donc, est-ce que, à partir du moment où on s'interroge sur la protection du patrimoine, d'un patrimoine naturel ou bâti, ça veut dire que derrière, on ne va pas pouvoir fondamentalement l'utiliser, le transformer plus exactement, le radicalement en tout cas. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de petit patrimoine. C'est important à regarder, à protéger, ou ce n'est pas important. Le choix étant nouveau, faisant question. Hein. Mais j'ai le sentiment que, à partir du moment où on dit ça, c'est intéressant, est-ce que c'est justifié de dire que c'est d'un intérêt local ? C'est une question, je n'ai pas de réponse a priori. Après, il y a la quantité, il y a la superficie, c'est peut-être possible, mais je pense que c'est une discussion, enfin, c'est une distinction qui convient à tout le monde, et que j'utilise moi-même. Est-ce pour autant qu'elle soit juste ? Je veux dire, est-ce que le bourg d'une commune rurale avec 50 maisons intéressantes, est-ce que c'est mérite une ZPPUP ou pas, on la fait pas, on la vape, on la fait pas. Voilà. Est-ce que pour autant le PLU qui va s'intéresser veut dire qu'on est sur un cran en dessous ? Non. L'outil est un cran en dessous, mais l'identification qu'il fait, en tout cas le territoire sur lequel il s'intéresse, n'est pas forcément un cran en dessous. La question des intérieurs est un autre débat, hein, éventuellement.
Ok. Maintenant, tu as...
Je vais peut-être poser une ou deux questions comme ça.
Tiens.
Non, alors alors
tiens.
Oui, non, mais... Et donc ce que je moi je...
ce que j'entends parfois en gros c'est
j'entends des contradictions.
Non c'est pas ça. Non mais j'entends que en gros il faut se méfier un peu quand même des élus et des collectivités locales. Soit dans leur existence communale, soit dans ce qui va se jouer dans le passage à l'intercommunalité. Il y a quand même pas mal d'exemples contraires. Déjà, le portage même, souvent, des outils existants repose sur une volonté des élus.
Bien entendu.
Voilà, donc pourquoi ça ne ferait pas tache d'huile et pourquoi on ne pourrait pas faire confiance aux élus et aux collectivités, y compris dans la mise en place d'un outil qu'est le PLU patrimonial qui peut ne pas être conçu comme parfait dès le départ, mais qui peut aussi évoluer dans le bon sens, justement, au fur et à mesure des modifications et des révisions. Est-ce que j'entends mal quand j'entends un certain scepticisme ?
En partie non. Mais en partie oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit, dans 10 ans, on verra. Je veux dire que... Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage. Je veux dire que... On dit du jour au lendemain à un territoire, débrouille-toi. On dit du jour en... Moi, je suis un jeune, je suis un gamin dans le boulot, et j'ai vécu la décentralisation. Je veux dire, bon, d'abord, on est fonctionnaire, d'accord, on ne comprend pas tout, je suis d'accord, mais on a bien mis une dizaine d'années, voire au moins une dizaine d'années, avant de prendre la mesure de ce que ça voulait dire. Hein. De même que l'État a mis un certain temps avant de l'accepter, je veux dire, bon. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis souvenez-vous quand même, hein, la décentralisation, c'était donnant-donnant. Si vous vous dotez d'une règle du jeu, je vous donnerai des compétences. Ce n'est pas je vous donne les compétences et débrouillez-vous. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un petit peu ce raisonnement-là que j'ai derrière la tête. Hein, c'est de se dire à la fois, il y a un temps d'apprentissage. Et on le fait comment ? J'ai protesté dans mon coin, hein, à l'époque, quand il y avait un transfert des monuments historiques. Ça ne me semblait pas en tant que tel stupide, mais c'était pratiqué de manière, à mon sens, pas correcte, pas cohérente. C'est-à-dire qu'on transférait, vous voulez prendre le monument ? Prenez-le, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Oui, mais avec quoi ? Avec quel c'est pas, même pas une question d'argent, hein. Avec quelle analyse, quel programme, quel projet, comment ? Donc on refile la patate chaude à quelqu'un sans que pour autant on ait vérifié qu'il en ait envie, qu'il en ait la compétence, qu'il ait le savoir-faire, etc. Donc c'est ça pour moi la difficulté. Moi je pense que dans 10-15 ans, il y aura pas. Le discours que je tiens aujourd'hui, dans 10-15 ans, je souhaite fortement qu'il soit dépassé. Mais aujourd'hui, à mon avis, il est extrêmement fort, quoi. C'est-à-dire que on dit du jour au lendemain à l'interco, tu prends en charge. Non, mais écoutez les maires des territoires. Hein. Quand vous avez des maires aujourd'hui dans l'interco, je cite toujours ça parce que ça m'a amusé quand même, hein, en Bretagne, je ne sais pas si c'était plus près, mais il y a un journal local qui avait interviewé les maires au 1er janvier pour dire quels sont vos voeux pour l'année qui vient. Il y a un maire qui a dit que les ABF disparaissent. Vous avez suivi les débats au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y a eu des velléités de supprimer la compétence, les prérogatives exactement, des ABF. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une culture de consensus ou d'accord. Il y a une forte demande sociale, mais il n'y a pas une gestion politique en adéquation. Donc ça, tant que ce n'est pas en place, soyons prudents. Donc ne transférons pas du jour au lendemain. Voilà. Donc le discours de fond, c'est celui-là. Et quand tout à l'heure j'ai dit dans 10 ans on verra, ça voulait dire ça. Et quand je dis. Alors effectivement, je parle d'aujourd'hui, donc je suis très inquiet par rapport à aujourd'hui. Mais dans l'avenir, je pense qu'il y a des chances pour que ça évolue positivement. Mais à nouveau, moi j'ai bossé à Bayonne. Là, il y a 3 semaines, la majorité des communes a voté l'intercommunalité. Ils vont passer à 158 communes. D'accord ? Eh bien, je souhaite bien du plaisir à mes collègues et aux élus des 2 ou 3 territoires qui ont une AVAP ou un secteur sauvegardé. Ils vont s'amuser quand même. Hein ? C'est-à-dire que. Voilà. Parce que. À l'évidence, c'est pas forcément, en plus dans un contexte économique compliqué, etc., c'est pas forcément une décision qui coule de soi, qui va dire bon, l'Interco, je mets 300 000 euros d'investissement, 500 000 euros d'investissement pour travailler sur ce territoire pour qu'il soit valorisé patrimonialement parlant. Alors qu'avec un PLU, avec 60 000 euros, entre guillemets, je donne l'illusion de faire la même chose. Donc c'est ça la vraie difficulté. Hein, c'est cette. On n'est pas capable, et ça fait longtemps, sauf la décentralisation, quelque part, il y a 30 ans, on n'est pas capable aujourd'hui de transférer sa compétence à un tiers sans l'accompagner, sans s'assurer qu'au moins il y a suffisamment de compréhension et de prise en compte pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc c'est ça la main de difficulté.
Donc là, cet enjeu essentiel du passage à l'intercommunalité, ce n'est pas du tout des opportunités, par exemple, de mutualisation des moyens, donc finalement de renforcement d'une ingénierie ou même de création d'une ingénierie patrimoniale. Ça ressemblerait plutôt à un nivellement par le bas, refus des identités communales.
Je pense qu'il y a deux questions. Il y a deux questions, je ne sais pas. Première question, qui est une question de fond, c'est que. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une politique patrimoniale dans le sens mise en œuvre du terme sans proximité. On ne peut pas faire autrement qu'accompagner beaucoup, beaucoup les acteurs, les élus, les habitants, les artisans, tous les acteurs, les investisseurs, etc. On ne peut pas instruire une autorisation de travaux formellement. C'est pas une question de ça fait 12,50 m, H plus 2. Non, c'est une question de sensibilité, de connaissance, de relevé, d'attention, etc. Donc ça suppose effectivement une gestion de proximité. Cette gestion de proximité, elle est contradictoire, c'est nécessaire, avec une gestion du droit des sols ou de l'urbanisme au niveau de l'intercommunalité. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un mode opératoire qui puisse faire en sorte que l'organisation du territoire de demain soit effectivement gérée à l'intercommunalité, mais que des éléments de cette construction-là soient gérés au niveau local. Je pense d'ailleurs que sur la construction neuve, ça le mériterait aussi. Hein, ça mériterait quand même des sacrés bourdins, des sacrés saloperies. Donc, il y a cette question-là. Qu'il y ait des intercommunalités qui fonctionnent bien, mais bien évidemment. Mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ne fonctionnent pas bien ou qui ne vont pas fonctionner. Par rapport à cette fameuse mutualisation, mais avec qui, pour faire quoi ? Un autre exemple d'une intercommunalité avec une commune de 500 habitants et qui a trois AVAP sur elle et trois AVAP à côté, trois territoires, donc une interco, et ces trois AVAP à côté apportent en fait uniquement le paysage. Donc ce sont des coteaux, etc., des forêts. Ils sont SPPAUP, hein, pardon. Et le maire du territoire principal, 450 habitants ou 500 habitants, dit que je passerai bien à AVAP parce que je vais perdre ma SPPAUP au 15 juillet. Là, et donc il demande à l'Interco, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça veut dire là au niveau investissement. Et l'Interco lui répond très rapidement, oui, on a consulté, c'est 40 000 euros par AVAP, passer à AVAP. C'est-à-dire qu'on a trois champs de patates, enfin trois forêts avec des prés, peut-être un peu d'étang, un peu de rivière, et transformer ce bout-là en de SPPAUP en AVAP, le gars dit 40 000 euros. L'Interco s'en fout. Disons-le clairement, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'est pas posé la question. Hein. Et lui dit, ben, je ne bouge pas. Je ne vais pas mettre 120 000 euros pour... Donc, la mutualisation, bien sûr que oui. Mais à nouveau, ce n'est pas un problème technique. Hein. C'est un problème de... J'ai un copain qui dit... Il ne faut pas confondre prérogatives et compétences. Je crois que ça, c'est profond comme réflexion. Voilà. Donc, et si on ne... Je veux dire que les territoires où la protection marche sont des territoires qui se dotent dans les services de personnel qui bossent là-dessus. Je ne parle même pas de la médiation, hein, mais ce qui est en plus un autre complément. Et là où ça ne marche pas, ben c'est qu'il n'y a pas de personnel dédié à ça. Donc, voilà. La mutualisation, c'est mutualiser... des compétences d'instruction, des compétences de voirie, des compétences de service, etc. Bien sûr que oui, mais si c'est que ça, on passe à côté, quoi.
Et
ça bouche un coin.
Comment, oui, ça m'embouche un coin. et est-ce que justement, là tu as parlé de médiation, bon, bien sûr il y a la médiation vraiment... En tant que tel, voilà, entre autres par exemple, au titre de Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire, mais est-ce que le document d'urbanisme peut pas aussi servir, là aussi, pas forcément sur les espaces ultra-patrimoniaux, mais en partie d'outils de médiation par rapport au patrimoine, c'est-à-dire le simple fait d'écrire un certain nombre de choses plus ou moins prescriptives, mais finalement dans pas mal de PLU dits patrimoniaux, pas si prescriptifs que ça. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément, une carte à jouer pour une collectivité que de travailler sur cette question du patrimoine ? Voilà, ça c'est ma... Après j'aurai une dernière question.
Alors, nous on s'est beaucoup battu pour la loi CAP, pour qu'effectivement soit associé à ces protections un outil de médiation. La proposition d'amendement qu'on a faite était un outil de médiation, il ne s'agit pas de désigner quel outil de médiation, mais un outil de médiation. C'est totalement évident que, moi je l'ai vécu, je veux dire que on ne peut pas mettre en place une politique de protection, quelle qu'elle soit, peu importe le niveau dont on veut parler, s'il n'y a pas une adhésion des gens. C'est-à-dire que si on n'applique que juridiquement les choses, on va dire ça ne va pas, tu as fait les travaux, c'est pas correct les travaux, où tu as commencé les travaux, c'est pas correct, je dresse procès verbal. Oui, et après, le procureur classe. Donc, moi j'ai des expériences terrifiantes où le procureur a classé. Il classe. Il n'y a que quand il y a atteinte à la propriété privée qu'il ne classe pas, mais quand il y a atteinte au document d'urbanisme, il y a. Et puis à quoi ça sert de faire la police, quoi, de faire le flic, entre guillemets, quoi. Ça ne sert à rien. On ne pourra jamais remplacer l'adhésion des gens et la volonté de faire. Et en plus, ça permettra aussi d'une certaine stabilité. C'est-à-dire que ça, c'est une manière aussi de contrebalancer des revirements politiques brutaux. Donc oui, il faut absolument qu'il y ait une médiation, d'une manière ou d'une autre, pour expliquer aux gens. À un moment donné, mon maire disait, il ne faut plus dire que ce sont des contraintes, c'est un gros mot. Jackie, il a dit c'est un gros mot, il a raison, c'est un gros mot. Oui, parce qu'on peut percevoir ça comme des contraintes, je l'entends bien, mais c'est plutôt une ambition. Mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on demande que ce soit dit pas blanc, mais rouge, ou bleu, ou vert, ou grand, ou petit, d'abord on est des bonnets. Et on en face de soi des adultes, quoi. Donc le seul moyen pour que ça se fasse réellement, c'est que les gens adhèrent et en soient porteurs. Donc oui, l'explication, la médiation, c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, on ne peut expliquer que ce que l'on connaît bien. Donc si on a une étude légère de compréhension du patrimoine à travers un PMU qu'on a fait vite fait parce qu'on veut, hein, on aura beaucoup de difficultés à faire comprendre. Autant ça sera pas efficace, quoi.
Qu'est-ce qui peut pousser en fait justement une collectivité ou des élus, voire un élu, à faire justement un PLU, soit disant patrimonial, vite fait? On parle de greenwashing du point de vue de l'environnement. Est-ce que c'est la même logique c'est un outil de marketing territorial, le PLU patrimonial, qui existerait?
Il peut y avoir aussi. Moi, mon sentiment, c'est un niveau de conscience de l'élu. Hein. C'est-à-dire que quel est son niveau de conscience du territoire, quel est le niveau de crise du territoire aussi, et quel est le regard qu'il a sur cette crise-là. Le niveau de conscience, c'est, s'il a une très forte conscience, il va probablement essayer d'aller dans l'outil le plus efficace possible. S'il commence à comprendre que, parce qu'il y a une association, parce que, voilà, il va rentrer par le document le plus faible, mais qui est une, ce que je disais tout à l'heure, une première étape. Ça peut être aussi pédagogiquement intéressant de ce point de vue-là. Après, il y a une question de moyens, de temps. L'élu n'aime pas beaucoup la perte de temps. Je veux dire que, à nouveau, cette temporalité est énormément importante. L'autre élément également, c'est la perception de la crise. Moi, j'ai tendance à penser que lorsqu'un territoire est en souffrance totale, la seule chose qui lui reste, c'est son patrimoine, naturel ou bâti. C'est le seul truc qu'il ne peut pas perdre, quoi. Et s'il le perd, qu'est-ce qui lui reste? Mais encore faut-il avoir conscience que ce n'est pas un obstacle. Et parfois, on se dit, ben oui, non, mais je ne peux pas faire ça, donc je vais déprotéger. Hein. Mais je pense que c'est aussi une capacité de conscience et de réponse à une situation, quoi. Mais ça peut être aussi au niveau des services, c'est notre rôle aussi au niveau des services, hein, de réfléchir ensemble, de proposer. On doit proposer aux élus, c'est notre travail quand même. Après, l'élu décide, il choisit. Hein, donc.
Et dans cette idée que, à un moment, la dernière chose à protéger, c'est le patrimoine. Enfin, je veux dire, quand le territoire est en crise, que les entreprises ont déserté le territoire, que la population se sauve, effectivement. À la fois comme élément d'identité et comme facteur d'attractivité, il faut protéger les patrimoines, protéger, gérer, valoriser. Est-ce que ça, c'est pas un argument justement pour en faire un enjeu intercommunal de manière assez facile?
Je pense que oui.
Parce que le patrimoine, même s'il est communal, il est souvent fréquenté par une population qui dépasse largement la population communale.
Tout à fait. Mais il y a récemment une publication que j'ai vue, qui est les petites cités de caractère de Franche-Comté, où on est sur des territoires de 120 habitants, 500 habitants, 1200 habitants, dans des tout petits territoires, quoi. Et à 150 habitants, 120 habitants, a priori, direction de la fossée, quoi. Ben non, Ces gens-là publient, étudient, travaillent et font réseau, parce qu'effectivement, ça a du sens de faire réseau avec ça. Et on ne va pas faire du réseau parce que j'ai une entreprise qui n'est pas à côté, hein, je veux dire, voilà. Ou que j'ai un Ikea qui n'est pas à côté, quoi, bien au contraire. Quoi. Donc, c'est sans aucun doute, effectivement, un outil de développement d'une conscience intercommunale, sans aucun doute. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Hein, c'est le territoire auquel je pense là, j'ai l'impression que c'est une exception intéressante, mais ça reste encore une exception, quoi.
Mathieu, pas d'autres questions qui te seraient venues entre-temps ?
Oui. J'ai peut-être une dernière question, parce que quand je parlais de médiation, en fait, à l'intérieur du PLU, mais je me suis mal exprimé, enfin, je voulais aussi savoir ce que tu pensais de l'équilibre qui existe ou pas, parfois au sein du document d'urbanisme, entre la prescription, la recommandation, des choses qui rentrent dans le PLU et qui ont, d'un point de vue purement juridique, à la base pas trop de raison d'y être, mais qui finalement participent, aident d'abord le service instructeur à instruire, parce qu'il faut aussi que la connaissance elle arrive jusqu'à l'instructeur permis de construire, et puis qui sont aussi des outils finalement de discussion avec l'habitant pour lui faire comprendre pourquoi tel endroit sur sa façade il aura telle contrainte. Voilà. Et comment tu vois ce que tu penses qu'un PLU doit s'arrêter à de simples prescriptions ou peut intégrer aussi ces éléments qui souvent relèvent de recommandations, de conseils techniques, voilà, avec tout un jeu dans lequel on ne va pas entrer maintenant d'écriture, hein, qui est très fin ou, voilà.
Non, moi je pense que c'est un tout. C'est un tout, effectivement. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Le document doit être aussi une capacité d'expliquer aux gens le pourquoi, hein, et pourquoi on fait ça et dans quel but, quoi. Il doit être en capacité d'expliquer le plus clairement possible ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà. D'abord, les juristes ne sont pas d'accord. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire aller au-delà. C'est-à-dire que on ne peut pas... On nous fait faire des écarts dont les adducteurs lâchent en permanence, quoi, en disant « Vous pouvez protéger, mais je n'ai pas le droit de prescrire. » D'accord, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, là ? Je peux, mais je ne peux pas. Alors, on ne peut pas dire « Vous devrez utiliser la pierre d'Angoulême, mais vous pouvez dire, comme les édifices sont construits avec une pierre d'Angoulême, on peut utiliser une pierre équivalente. » Ça s'appelle de l'hypocrisie totale, quoi. Donc, moi, le fait qu'on aille au-delà de ce que l'on croit avoir le droit de faire, pour moi, c'est parfaitement légitime. D'abord parce que les choses ne sont jamais figées. Tout n'est pas écrit, et il faut que les choses se mûrissent. Et puis au pire, il y a un juge un jour qui dira si on a tort ou si on a raison. Et puis je crois qu'on n'en dit jamais assez, au sens où on n'envisage jamais assez toutes les possibilités qui puissent exister, quoi. Le pire des documents des plans de, enfin, des règlements d'urbanisme, c'est celui sans objet où la hauteur sera de 1,28 m, quoi. Si c'est 1,28 m et 3 mm, c'est illégal, quoi. Tout d'un coup, ça ne va plus du tout, quoi. Donc il y a une richesse aussi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas confondre les champs juridiques, hein. Je suis d'accord que l'enseigne, on ne va pas la gérer dans le machin, hein, c'est d'accord, l'environnement, c'est pas bien. Mais il n'empêche qu'il n'y a rien qui empêche d'enrichir la compréhension, y compris dans la partie réglementaire. Et puis si elle est anormalement prescriptive, ben on verra. Je crois qu'on ne peut pas pêcher d'explication. On pêche par manque d'explication. C'est pas tout à fait la même chose, quoi.
En gros, il faut qu'une collectivité soit prête à prendre des risques juridiques, éventuellement.
Ah, toujours. Mais il faut les comprendre, je veux dire, c'est pas de l'irresponsabilité, quoi. Il faut pas hésiter. Enfin, Moi, on a mis en place sur Bayonne un PLU patrimonial sur un quartier. L'article 11, il doit faire 25 pages, quoi. Et alors ? Je veux dire, où est le problème ? Si on explique bien aux gens que dans ce quartier, il y a du médiéval, il y a du 16e, du 17e, du 18e, que c'est pas la même chose, qu'on répond pas la même chose, que la nature de l'enduit pas le même, que ceci, que cela. Hein ? Ça me semble nécessaire, quoi. Ça fait sens. En tout cas, on ne perd pas son temps en le faisant. Et si on ne le dit pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va utiliser l'enduit prêt à l'emploi pour tout le monde, le même, qu'on va utiliser la menuiserie de chez machin, la même partout. Toute l'originalité de la rue là, c'est la différence qu'il y a entre deux bâtiments. Il n'y a aucun bâtiment identique, ils se ressemblent, ils ne sont jamais les mêmes, quoi. Donc cette nuance-là, il faut être capable de la... Si le règlement est trop sec, il n'est pas capable de la proposer. L'imposer, c'est autre chose, hein, mais au moins de la proposer. Hein.
Et ce même résultat ne pouvait pas être atteint autrement que par un règlement de 25 pages sur l'aspect extérieur des constructions. Et une collectivité ne peut pas passer justement par de la pure médiation, par des ateliers, par des... Voilà, enfin, il y a quand même besoin d'avoir recours à une règle juridique à un moment.
Je voudrais bien lire les plans locaux d'urbanisme du XVIIIe siècle, qui permettaient les constructions. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on se pense contraint de réglementer une perte de connaissance, une perte de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de... Pourquoi faut-il qu'il y ait des règles d'urbanisme ? Je veux dire que... Est-ce qu'on a... Tel qu'on les conçoit aujourd'hui, alors il y a un tas de raisons, les réseaux, la sécurité, le machin, je suis d'accord, mais je veux dire qu'on a construit pendant des siècles avec peu ou pas de réglementation. On faisait parce qu'on savait qu'il fallait faire comme ça et qu'on n'allait pas se permettre de faire différemment, etc. Donc, en fait... Pour moi, il y a le droit, il y a la règle du... Oui, il y a le code, mais pour moi, un règlement, c'est les rails de sécurité de l'autoroute, quoi. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même deux voies ou trois voies, quoi. Et puis je prends la voie de gauche ou la voie de droite, par contre, je n'ai pas le droit de balayer. Hein. Mais je prends une voie ou j'en prends une autre, je choisis, je double pas, et je suis dans ma constance logique dans la voie où je suis. Je roule à 90, je prends la file de droite, et tranquillement, je vais jusqu'au bout, mais je n'ai pas lâché. Voilà. Et puis si jamais je dérape, ben j'ai quelqu'un qui me dit là, attention, faut pas. Mais voilà, c'est un peu l'image qui me semble importante, hein. C'est-à-dire que on devrait plutôt percevoir aujourd'hui les propositions de règlement comme étant j'ai un champ à l'intérieur duquel je peux travailler. Ce champ, c'est pas je peux manger n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quelle heure. Je choisis, je suis végétarien ou je suis carnier ou poisson, machin. Et puis je reste dans ce champ-là, et puis si jamais je ne me rends pas compte que j'en déborde, ben, j'ai quelque chose qui me dit là, faut s'arrêter. Moi ça m'énerve de dire c'est pas conforme parce qu'il manque un centimètre, ça n'a aucun sens, quoi, hein, ou il manque 80 centimètres, ça n'a aucun sens de dire ça. Pourtant ça nous oblige à dire ça, c'est pas ça, là. Ce qu'il faut c'est la compréhension et comment le manœuvre, quoi.
Jackie, merci beaucoup. Voilà. Une dernière parole peut-être ? Un sujet sur lequel tu pensais qu'on allait t'interroger ou que tu aurais eu envie.